une fracture de l'omoplate dans cette même chute. Et il y a cette image assez spectaculaire qui est sortie dans les médias aujourd'hui. C'est le Slovène Primož Roglič qui a littéralement, il ressemble à une table d'échecs tellement qu'il y a des pansements sur lui. Il a été brûlé à gauche, à droite.
Mon Dieu.
Il a pu finir.
Hey, mais écoute, juste les deux noms que tu viens de mentionner, c'est comme, bon, c'est deux têtes d'affiche du Tour de France, là. C'était les concurrents principaux l'an passé. Sérieux coup, comme tu dis, au cyclisme international, là.
Ben oui, puis surtout qu'un petit peu avant, c'était Wout van Aert, l'espèce de merveille du vélo qui a chuté. Lui, c'était une classique qui s'appelle « À travers les Flandres ». Alors, fracture de clavicule, 7 fractures aux côtes, contusion au poumon. Lui, il voulait revenir pour le Giro, là, mais là, on ne fait plus trop d'illusions de ce côté. Mais ça l'ouvre la voie, évidemment.
Ben oui, t'enlèves Wout van Aert, Vingegaard, il reste qui? Ben, dans les Bayres, Van der Poel, qui a gagné le Paris-Roubaix en fait, semaine. Mais c'est pas un, un coureur de tour, lui. C'est un coureur de jour. Fait que...
Il y a évidemment la fenêtre, elle est grande ouverte. Il y a des bons lieutenants, évidemment, à ses côtés. D'ailleurs, on se demande si ces lieutenants ne pourraient pas être leaders d'autres équipes vélo, mais ils se complètent bien. Il y en a un qui ouvre la voie, l'autre le finit.
Oui.
Et justement, Van der Poel, là, qui est à côté de son vélo après le Paris-Roubaix, parce qu'il a fait un échappé quand même de 60. Lui, à l'arrivée, il est vraiment... Il survolait ses pavés. C'est assez impressionnant de le voir.
Ben oui.
Il y avait un Québécois, Sébastien Moquin, de Cyclorigie, qui l'a fait la classique Paris-Roubaix là, à titre d'amateur. Il me disait à quel point c'est impossible à faire, que c'est des véritables funambules qui font cette course, parce qu'ils se font chahuter là, comme ça n'a aucun bon sens. Et vaut mieux aller vite sur les pavés, évidemment, qu'aller lentement, parce que sinon, c'est presque la chute arrivée. Alors, Van der Poel, lui, Mathieu Van der Poel, qui était, mon Dieu, il était debout à côté de son vélo après son sprint de 60 km et sa victoire sans équivoque. C'est vraiment spectaculaire.
Alors. Ben oui, Jean-Luc, tu as vu la moyenne, hein? La moyenne sur des pavés. 47,8 km/h. Sur combien de kilomètres? Sur 6 heures de course. C'est comme une moto. Une moto, littéralement. Ouais, extraordinaire. Ouais. Est-ce qu'on a une idée de la raison derrière le nombre d'accidents?
Il y a plusieurs articles européens qui sont sortis là-dessus, mais il y a entre autres le chef d'équipe de Vingegaard qui, lui, vraiment fustige les organisateurs de course en disant que la sécurité, elle est devenue complètement nulle par rapport à la force des athlètes. Et d'ailleurs, juste avant d'entrer dans l'onde, j'asais avec le metteur en onde, Larry, qui aime beaucoup le sport d'endurance et qui a capté une phrase qui dit tout. Les athlètes de Formule 1 sont probablement mieux protégés que les cyclistes en ce moment lors de compétition parce qu'ils ont un habitat de sécurité qui est conçu pour absorber les sons, les chocs. Que les adeptes de vélo, ben, comme protection, ils ont un petit peu de lycra et ça finit là. Alors, ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer cet été dans les prochaines semaines.
Bon, ben Jean-Luc, bonne tempête de neige et puis reviens-nous en santé.
Bonne pour toi.
OK, merci. Ciao.
Salut.
Au retour, on parle à Rachel Lavigne, médecin pour Médecins sans frontières qui a travaillé à Port-au-Prince.
Le Salut.
Salut, c'est Nicolas Prévost. Ça me fait plaisir de vous retrouver samedi dimanche pour la seule émission dédiée à cette industrie musicale dominante au Québec maintenant. Et je vais vous faire jouer les plus grands succès de la musique country. Take me down where the beer is cold, the fish get fried and the fireflies glow. My life was black and white, but she's the painter. She does, she does wine. Écoutez Le Saloon.
Le Saloon.
Tous les samedis et dimanches.
Avec Nicolas Prévost.
L'abus de plaisir n'est pas dangereux pour la santé. Découvrez tous nos produits érotiques pour couples dédiés aux amoureux et à la sensualité à deux. Huile, jouets, lingerie et plus. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète.
Pierre, tes prédictions pour les séries?
Cette année, sans hésiter, je dirais que Hyundai va être l'équipe à battre.
Bien d'accord avec toi, ils vont être à surveiller.
Ils présentent tout un alignement. De joueurs de concession comme le nouveau Santa Fe, des vétérans fiables comme l'Elantra et le Tucson, et de plus, c'est l'événement Hyundai en série avec du financement à partir de 3,99% sur version sélectionnée.
Un modèle à suivre en particulier?
Ah, Marc, je garderai un œil sur le Kona N-Line avec son rabais additionnel de $500. Profitez de l'événement Hyundai en série. Des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire pour les détails.
Le
centre de sport JMD Passion Hockey fête ses 10 ans à l'été 2024. C'est avec un tout nouveau complexe qui comprend deux surfaces, terrasses et services qu'on vous invite à vous inscrire pour la saison d'été dès maintenant. 5 classes masculines, 3 classes mixtes et 2 classes féminines. Cette saison comprend 16 matchs plus séries. Pour la classe Open, Deck Espoir de 5 à 12 ans et la Ligue M16, les inscriptions débutent le 25 mars. Rejoins-nous pour une expérience palpitante. CSJMD Deck Rimouski.
Du 12 au 14 avril prochain, Événement 2M présente la 34e édition du Salon Expo Nature au Complexe des Jardins. Le Salon Expo Nature, c'est le rendez-vous des amateurs de plein air dans le Bas-Saint-Laurent. Chasse, pêche, pourvoirie, bateau, camping, équipement et plus encore. Plus d'une cinquantaine d'exposants sur place. Pour connaître les heures d'ouverture du salon, visitez lesalonexponature.com. Le Salon Expo Nature 2024, une invitation à ne pas manquer. Expo Nature du 12 au 14 avril 2024, un événement signé Événement 2M.
Vous avez besoin d'être joint en tout temps? Faites confiance à Tactique Télécom pour effectuer l'installation d'amplificateurs de signaux cellulaires autant dans un véhicule que dans un bâtiment. Vous prévoyez une escapade en forêt? Optez pour la location d'un téléphone satellite. Vous partirez ainsi l'esprit tranquille. Envie d'en savoir plus? Communiquez avec nous au 418-721-7917 ou visitez le tactiquetelecom.ca.
CFIX FM 93 est là pour vous. Que vous ayez besoin de personnel ou simplement de parler de vos prochaines promotions, vous êtes à la bonne place. Acheter de la publicité dans une radio parlée, ça marche. Demandez à nos clients. Lorsque vous souscrivez un plan de publicité à CFIX FM 93, vous avez accès à bien plus qu'une simple publicité. Chez nous, le client est plus qu'un client. N'attendez plus et contactez notre représentant aux ventes Stéphane Morneau au 418-905-0318 ou par courriel à vente au pluriel à commercial CFIX. Rimouski.com.
Branché sur Rimouski et l'Est du Québec. En direct sur l'événement, à la minute où ça se produit. Le choc des idées, des entrevues qui font avancer. Avancer. Et surtout, votre opinion.
FM 93.
Voici Luc Ferrandez.
La docteure Rachel Lavigne est médecin pour Médecins sans frontières à Port-au-Prince. Elle a fait l'objet d'un très bel article, c'était au téléjournal en Estrie, de Geneviève Proulx et de Chantal Rivet. Ça a attiré notre attention, on a eu envie de lui parler. Bonjour, Madame Lavigne.
Bonjour, M. Ferrandez.
Alors, Mme Lavigne, vous êtes passée à travers une expérience extraordinaire, pas extraordinaire dans le sens de réjouissante, évidemment, mais une expérience de vie, puis une expérience de médecine exceptionnelle par en opérant à partir de Port-au-Prince en pleine période de chaos. Est-ce que vous en êtes ressortie désespérée ou vous avez trouvé quelques éléments positifs de votre séjour?
Écoutez, je suis toujours à Port-au-Prince, donc je vis encore là-bas.
OK, excusez-moi.
Ouais.
Mon Dieu, mais ça n'a pas à plus forte raison, alors. Ben oui, parce qu'en plus, l'aéroport est fermé maintenant.
Oui, exactement. Donc, un peu difficile de quitter le pays pour l'instant.
Oui, d'accord. Bon, alors, encore plus content de vous parler. Comment vous vous en sortez? Comment vous allez, vous, pour commencer, là, juste vous?
Moi, ça va bien. On s'en sort comme on peut, comme on dit, mais pour ma part, je dois dire que je vais assez bien.
OK, parfait. Alors, on peut faire preuve de résilience, de courage, d'énergie dans une situation comme celle-là. Mais par contre, vous êtes mis à contribution, là, vous êtes mis à contribution, vous avez énormément de travail.
Oui, exactement. Dans le fond, mon travail consiste à supporter les équipes locales ici dans notre hôpital MSF à Drouillard. Là, c'est dans le quartier Cité Soleil. C'est le plus grand bidonville en fait de Port-au-Prince où la population la plus vulnérable, là, où elle demeure.
Et vous recevez constamment des environs, notamment des gens qui sont blessés par balles.
Exactement. Oui. Et tous les jours, en moyenne, trois blessés par balle par jour. Je vous dirais que ça peut monter jusqu'à 15.
Puis vous, dans l'article de Radio-Canada, on indique que plusieurs, jusqu'à 15, mon Dieu, ça c'est du travail, ça indique que ce sont souvent des civils.
Oui, on a beaucoup de civils, malheureusement, dans nos patients, des gens qui sont victimes un peu des violences qui se passent dans les rues. C'est sûr, c'est une guerre urbaine, hein? C'est pas une guerre comme on est habitué de le voir dans d'autres pays où il y a des tranchées puis que les civils sont moins impliqués. C'est vraiment une guerre urbaine qui se passe à même les rues, à même les maisons, même de nos des concitoyens de Port-au-Prince. Donc, c'est eux, malheureusement, les victimes, là, les premières victimes de ça.
Est-ce que tout le monde peut être reçu à l'hôpital?
Oui, on offre des soins gratuits, on n'a pas de critères d'exclusion, tout le monde est la bienvenue.
OK, vous êtes est-ce que vous êtes un hôpital de Médecins sans frontières ou vous êtes des médecins de Médecins sans frontières dans un hôpital d'Haïti?
Dans le fond, nous, ici, ça dépend de chaque projet, mais nous, ici, c'est vraiment un hôpital qui a été construit par Médecins sans frontières, qui a été mis en place par Médecins sans frontières. Les employés, par contre, sont à 90-95% des employés nationaux, fait que c'est des Haïtiens, c'est des gens qui viennent en majorité de Port-au-Prince qui travaillent pour nous, mais qui travaillent sous l'emblème d'NSF.
Moi, je pensais que plusieurs médecins, plusieurs urgentologues, spécialistes, infirmières, tout ça, se sauveraient dans cette situation-là. Est-ce que c'est le cas?
Non. Écoutez, c'est sûr que quand la situation a changé, je vous dirais à la fin février, début mars, on s'est fait poser la question par nos supérieurs. D'abord, les Haïtiens ne peuvent pas quitter. Là. Ça, c'est la chose qui est vraiment malheureuse. Donc,
ils peuvent quitter Port-au-Prince. Ils peuvent quitter Port-au-Prince.
Oui, mais le travail est vraiment à Port-au-Prince aussi. Ouais. Aller en province, c'est quand même difficile. Les gens n'ont pas d'argent, n'ont pas de travail, n'ont pas de famille non plus, pas de contact. Puis c'est très dangereux de sortir aussi de Port-au-Prince. C'est pas juste à Port-au-Prince les problèmes. Sur les routes qui mènent en dehors, il y a vraiment des kidnappings à profusion. Il y a des tirs aussi. Donc, c'est pas si simple que ça si on veut fuir. Mais on a beaucoup de déplacés internes qu'on appelle des gens qui, dans le fond, quittent leur maison à cause des combats. Puis parmi eux, il y a de nos employés qui ont dû quitter leur maison aussi.
Et à ce moment-là, ils font quoi?
Écoutez, on cherche des solutions chez Médecins sans frontières. Ils vont souvent chez de la famille. Il y en a certains qu'on a hébergés par un certain temps à même l'hôpital. Donc, on essaye de trouver des solutions là, avec eux pour trouver un endroit où ils peuvent aller en sécurité.
Oui. Est-ce que vous jugez que vous avez le personnel suffisant pour faire face à la situation à l'hôpital de Médecins sans frontières?
Ben, je pense qu'on a le personnel. C'est sûr que par contre, il y a un exode majeur je dirais pas de l'élite, mais des gens qui ont les moyens de quitter. Donc, les médecins spécialistes, beaucoup ont déjà quitté. Des gens, je dirais, qui pourraient contribuer là à l'effort ici. Ils ont déjà quitté le pays vers les États-Unis, vers le Canada ou même vers ailleurs, dépendamment. Donc, on sait, avec le visa Biden, ça a apporté beaucoup une exode de la population. Ouais. C'est sûr que ça apporte quand même des défis au niveau du recrutement, même au sein des MSF.
Il y a plusieurs hôpitaux haïtiens qui ont fermé.
Oui. Entre autres, le plus grand hôpital public là, universitaire HUH qui a fermé, ça doit faire maintenant plus qu'un mois qu'il est fermé. Il était supposé réouvrir le 1er avril, mais avec les combats qui se passent autour de l'hôpital, je pense même que l'hôpital a été attaqué récemment par les gangs, donc ça ne sera pas possible.
Et dans ces conditions,
pour l'instant d'ouvrir.
Puis dans ces conditions-là, je vous demandais si vous avez le personnel, vous avez dit oui à peu près, même s'il y en a pas mal qui sont partis. Il y a aussi les médicaments. Est-ce que vous êtes dans une situation de guerre, il doit manquer de tout, non, à certains moments, pour certains types d'opérations, certains types de traitements?
Oui, en effet. En fait, c'est une grande, grande préoccupation là, pour nous, les médicaments, l'approvisionnement en matériel. Je vous dirais que c'est notre plus grand défi actuellement au sein de l'hôpital. Avec les coupures qui ont eu lieu au niveau de l'aéroport international, on n'a plus accès, qui est fermé depuis plus d'un mois, même un mois et demi maintenant. La fermeture du port également qui a été attaquée, puis la fermeture de la frontière avec la République dominicaine. C'est excessivement difficile, c'est excessivement préoccupant, là, l'approvisionnement des médicaments. On a des ruptures et des pré-ruptures dans à peu près tous les départements de tous les médicaments possibles. Donc, on fait vraiment de notre mieux, on essaie de trouver des solutions, mais je vous dirais que c'est la situation critique ici.
C'est vraiment impressionnant qu'il n'y ait pas de pont aérien international. Je veux bien croire qu'on n'est pas capable de monter une force de police parce qu'on ne sait pas quand en serait l'issue des combats, mais un pont aérien pour des médicaments, il me semble que ça serait le minimum, ça, non?
Écoutez, je suis pas là pour donner mon avis non plus sur les questions de politique, mais c'est D'accord. sûr que je pense qu'il faudrait trouver un moyen quand même d'avoir un approvisionnement stable en médicaments. Est-ce que ça passe par un pont aérien peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? C'est sûr que je pense que tout est sur la table en ce moment. Je pense que les instances gouvernementales sont au courant des problèmes de médicaments qu'on rencontre. Par contre, les solutions n'arrivent pas rapidement ou pas assez rapidement à mon goût, là, oui. vu la détérioration de la situation.
Docteur Lavigne, comme vous soignez beaucoup de personnes blessées par balle, comme c'est l'événement du jour, si je peux dire, là, c'est, on mm-hmm. peut pas faire autrement, les arrivent, ils sont mourants ou ils sont blessés. Ben, j'imagine qu'il y a plein de gens qui se font pas soigner pour d'autres choses. Il y a quand même les maladies normales, le diabète, les maladies cardiaques.